Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Il y a quelques personnes, quelques frères et sœurs de notre communauté qui ne sont pas là parce qu'ils sont au mariage de Lydie Navez. On leur souhaite tout le bonheur et on espère que nos frères et sœurs vont rentrer bien et que des anges vont les accompagner sur la route, que tout se passera bien pour eux. On est très contents, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Et on va lire dans Jean chapitre 9, verset 1 à 34. C'est une longue lecture, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire. Finalement, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous voulons, nous? C'est connaître la parole de Dieu, afin de vivre la parole de Dieu. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de toute la parole de Dieu? C'est pas seulement des choses qui nous arrangent, hein? Comme chez les bisounours. Bon, Jean chapitre 1, verset 1 à 34. Comme Yeshua passait, il vit un homme aveugle depuis la naissance. Ses disciples lui demandèrent: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Yeshua répondit: Sa cécité n'est pas cause. N'a pas pour cause son péché ni celui de ses parents, c'est afin que puisse être manifestée en lui la puissance de Dieu. Tant qu'il fait jour, il faut continuer à faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha sur le sol, fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de l'homme et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie « envoyé ». L'homme y alla donc et se lava et revint en voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier dirent « N'est-ce pas l'homme qui avait l'habitude de s'asseoir là pour mendier ?» Certains dirent « Oui, c'est bien lui », alors que d'autres disaient « Non, 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 mais il lui ressemble ». Mais lui disait « Non, non, c'est bien moi ». Ils lui demandèrent « Mais comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme appelé Yeshua a fait de la boue et me l'a mis sur les yeux et m'a dit « Va à Siloé, lave-toi ». Alors je suis donc allé et aussitôt après m'être lavé, je voyais. Ils lui dirent « Mais où se trouve-t-il ? » Il répondit « Je ne sais pas ». Ils amenèrent aux religieux l'homme qui avait été aveugle, c'est-à-dire aux pharisiens, ouais, aux religieux, c'est chéri que j'adore. Or c'était pendant le Shabbat que Yeshua avait fait de la boue et ouvert les yeux de cet aveugle. Alors les Pérouchim, les pharisiens, lui demandèrent à leur tour comment il avait pu recouvrer la vue. Il leur répondit: il a mis de la boue sur mes yeux, ensuite je me suis lavé et maintenant je peux voir. Là-dessus, certains des pharisiens dirent: cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le Shabbat. Mais d'autres dirent: mais comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels miracles? Il y eut division entre eux. Vous voyez, plutôt que de se réjouir qu'un aveugle retrouve la vue, ces chameaux de religieux trouvent encore moyen de dire que Jésus n'est pas de Dieu parce qu'ils n'observent pas le Shabbat. Mais ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Ah, les religieux, mon Dieu! Sortez du milieu de mon peuple afin de ne pas participer à leur abomination. On continue. Alors, ils parlèrent encore une fois avec cet aveugle. Enfin, l'homme qui avait été aveugle, puisque tu es celui dont il a ouvert les yeux, que dis-tu de lui? Il répondit, mais c'est un prophète. Cependant, les Judéens ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il pouvait voir maintenant jusqu'à ce qu'il ait été convoqué par les parents de l'homme. Vous voyez, ils doutent tout le temps. Les gens doutent. Oh, Michel, c'est quoi cette histoire de rallonger les jambes? C'est quoi cette histoire? Les miracles, tout ça, ils doutent toujours. Bon, ben laissez-les douter, nous, on continue à faire l'œuvre de Dieu. Et ils leur demandèrent, celui-ci est-il bien votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il puisse voir maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment se fait-il qu'il puisse voir maintenant? Nous ne le savons pas, et nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Demandez-le lui, il est grand, il peut vous l'expliquer lui-même. Écoutez bien. Les parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Judéens, parce que les Judéens s'étaient mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui reconnaîtrait Yeshua comme Messie. C'est pour cette raison que les parents dirent « Il est assez grand, demandez-le lui ». Voyez, Moi, j'aurai mon fils qui est aveugle, qui retrouve la vue grâce à Jésus. Eh bien, je suivrai Jésus, je laisserai tomber ces religieux, je m'en ficherai de ne plus faire partie de leur synagogue. Eh ben non, eux, ils avaient la trouille d'être fichus dehors de la synagogue, malgré le fait que leur fils a bénéficié d'un miracle aussi extraordinaire. Vous voyez comment les gens sont tordus, mais tordus. Bon, c'est vrai qu'ils avaient peur, parce que quand on était exclu de la synagogue à cette époque-là, ça veut dire qu'on était exclu de toute la bonne société. C'était un petit peu, voilà, vous étiez considéré comme un hérétique, comme un mauvais, comme un pourri et tout. Les religieux s'arrangent toujours, n'est-ce pas, pour vous... Vous m'avez compris. Ils appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été guéri et lui dirent « Promets devant Dieu que tu nous diras la vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons que Jésus est un pécheur. Ah bon, comment se fait-il ça ?» Il répondit « S'il est pécheur ou non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alors ils lui dirent « Mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, » répondit-il. « Mais vous ne m'avez pas écouté. » Voilà le problème. Ils n'écoutent pas. Ils sont tellement sûrs de leur benoumerie qu'ils n'écoutent pas quand la vérité est dite. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Peut-être que vous aussi, vous voulez venir de ses disciples. Il avait de l'humour, hein. Alors, ils l'injurièrent, voilà. « Tu es peut-être son disciple, » dirent-ils, « mais nous sommes les disciples de Moïse. » Ah, voilà, nous sommes disciples de Moïse. C'est facile d'être disciple d'un mort, hein. Quand Moïse est mort, c'est facile d'être disciple. Quand Moïse était vivant, il n'avait pas beaucoup de disciples. Ils étaient toujours en train de râler contre lui, de lui faire tous les problèmes possibles et de désobéir à cause de leur désobéissance. Ils ont tourné 40 ans dans le désert, mais maintenant qu'il est mort et qu'il n'embête plus personne parce qu'il ne dit plus rien, eh ben alors on est disciples de Moïse. Ah, ça c'est bien les religieux. Aïe, 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 aïe. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais quant à cet individu, nous ne savons même pas d'où il vient. Quelle chose étrange, répondit l'homme, que vous ne sachiez pas d'où il vient alors qu'ils m'ont ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un craint Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'écoute. Ah bon? Oh, tiens! Oh, ah bon, alors, ah bon, tiens, c'est bizarre, Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est écrit dans la Bible. Ah oui, mais Michel, ça c'est la vie de ce pauvre homme aveugle qui a retrouvé la vue grâce à Jésus, mais c'est pas, on peut pas faire une doctrine avec ça. Dieu, des fois, il exauce les pécheurs. C'est justement ce qu'on va voir ce matin. Depuis le commencement des temps, personne n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un homme né aveugle. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils rétorquèrent, « Que fais-tu, mamzer? Penses-tu nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Voilà. C'est la plus belle chose qui lui est arrivée. Deux bonnes choses ce jour-là, c'est d'être guéri de sa cécité et d'être foutu dehors de leur saleté de religion pourrie. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite à vous, c'est d'être guéri par Jésus et puis de sortir de vos religions trompeuses. Que voulez-vous que je vous dise? Ceux qui connaissent Dieu savent que Satan imite Dieu en produisant, il est vrai, des miracles mensongers. Alors, que signifie mensonge? Alors, c'est un mot français qui a une signification multiple qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais dans un dictionnaire. Alors, il faut aussi lire le dictionnaire pour comprendre la Bible. Mensonger, ça signifie faux, trompeur, qui trompe, qui se base sur le mensonge, imaginaire, fictif, qui pousse à l'erreur. Voilà ce que signifie le mot mensonger. Donc, Satan fait des mensonges pour tromper. L'Antichrist fera des miracles mensongers. Ça nous est dit dans 2 Thessaloniciens 2. Alors, je vous lis le passage, parce que j'aime bien lire la Bible. 2 Thessaloniciens 2, 9. « Lorsque viendra cet homme impie, qui se soustraira à la loi de Moïse, l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, trompeur. Il lui permettra de tromper usant des voies les plus méchantes, ceux qui vont à la destruction parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. C'est pourquoi Dieu leur envoie ce qui cause leur égarement et qui les pousse à croire au mensonge. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité mais qui auront pris plaisir au mal seront condamnés. Qu'est-ce qu'un miracle mensonger? Qu'est-ce qu'un miracle trompeur? Les miracles mensongers sont des miracles qui sont faits pour s'opposer à Dieu. Comme par exemple les miracles des magiciens à la cour de Pharaon qui s'opposaient à Moïse. Dans Exode 8:15, il nous est dit que Pharaon, que Moïse transforme. On peut le lire. Pourquoi est-ce que je vous le raconte? Il n'y a qu'à le lire. Exode, qu'est-ce que je vous ai dit? Exode 8:15. Alors, Exode 8:15. C'est pas ça, si, c'est ça. Adonai fit ce que Moïse avait demandé. Les grenouilles périrent et tout. Enfin, voilà, oui, c'est l'histoire des grenouilles. C'est Moïse, il fait sortir les grenouilles du Nil et ça empeste dans le pays partout. Et les magiciens disent, mais nous aussi on peut le faire. Et ils font la même chose. Et ensuite, nous voyons dans Exode 8:1-4 que Moïse, donc après avoir fait sortir les grenouilles, les magiciens, donc ils en font autant, mais il s'opposait à Moïse qui, lui, était avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il voulait s'opposer en disant, vous voyez, c'est pas grave, c'est rien du tout, ça, nous aussi, on sait le faire. Et puis, Moïse, ensuite, transforme la poussière du sol en poux dans tout le pays d'Égypte. Mais là, les magiciens ne purent pas le faire. Pourquoi? Parce que toute la poussière avait déjà été transformée en poux. Ils pouvaient pas le faire. Alors, les magiciens dirent à Pharaon, non, là, c'est le doigt de Dieu, là, ça, on peut pas faire. Ça, on sait pas faire. C'est comme l'autre dame qui était venue à une de mes réunions et qui m'a vu prier pour un aveugle et que l'aveugle a retrouvé la vue. Elle me dit, alors moi je fais de l'hypnose, je peux soulager quelques petits mots, mais rendre la vue à un aveugle, je peux pas. Ben non, elle peut pas, c'est sûr. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose comme ça. C'est pas Michel Janton, c'est Dieu qui fait des choses comme ça. Mais le cœur de Pharaon fut endurci, nous dit la Bible, et il n'écouta pas les magiciens, ni Moïse. Vous lirez l'histoire des plaies d'Égypte, vous allez voir, c'est très curieux. Vous verrez que les miracles des magiciens ne sont là que pour s'opposer à la vérité, que pour s'opposer à Dieu. De plus, les miracles mensongers, trompeurs, les miracles des mages, n'étaient pas aussi puissants que ceux de Moïse, serviteur de Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Et le diable n'a la puissance que Dieu, il n'a que la puissance que Dieu lui permet d'avoir pour pouvoir tromper Pharaon et pour pouvoir tromper les fanfarons d'aujourd'hui. C'est marrant, hein, fanfarons, Pharaon. Dieu veut tromper les fanfarons d'aujourd'hui, il veut les tromper. C'est son but. Alors il se sert du diable, il lui donne le pouvoir de faire des miracles. En fait, c'est là, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas pour les bébés spirituels. Ça va choquer certains, mais tant pis, je dois dire la vérité, je dis la vérité. Ceux qui doivent l'entendre, l'entendront, les autres y passeront. C'est pas pour les incroyants, c'est pas pour les bébés spirituels bisounours qui sont assis bien confortablement dans leurs églises, leurs clubs, machin. Ce que je vais vous dire ne peut être compris que par les élus, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont donc la compréhension correcte des Écritures. En fait, Dieu permet que Satan fasse des miracles mensongers afin que le cœur des non-élus s'endurcisse et ne se tourne pas vers Dieu. C'est ça la vérité. Lisons Exode 7, 3, 4. Dieu dit... Dieu envoie Moïse pour parler à Pharaon et il dit « Cependant, tu lui diras, laisse mon peuple sortir d'Égypte. Cependant, Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte, et malgré cela, Pharaon ne vous écoutera pas. » Évidemment, il ne peut pas écouter puisqu'il est endurci par le Seigneur Tout-Puissant. Dieu fait ça. On va dire Romains chapitre 9, verset 17. Romains chapitre 9 verset 17, un passage qui enfin les chrétiens lisent pas leur Bible donc ça risque pas de les choquer, mais ceux qui la lisent sont choqués par ce passage. Romains 9 17 Romains 9, 17, je vous lis quelque chose qui est là. Car le Tanakh dit au Pharaon, c'est pour cette raison que je t'ai suscité, afin qu'en toi puisse montrer, afin qu'en toi je puisse montrer ma puissance, et que mon nom se répande sur toute la terre. Ainsi donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, mais pourquoi trouve-t-il encore des fautes en nous après tout? Qui peut résister à sa volonté? C'est vrai, s'il t'endurcit, qu'est-ce que tu peux y faire? Qui es-tu, toi, simple humain, pour contester avec Dieu? La chose façonnée, le pot, le vase, le machin, dira-t-elle à celui qui l'a faite, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas de croix de fer à partir d'un morceau d'argile, un vase pour un usage honorable et un autre pour un usage quelconque, vil? Et que dire si Dieu, bien qu'il fût en mesure de manifester sa colère et de faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience ceux qui méritaient la punition et qui étaient mûrs pour la destruction? Que dire de ça, hein? Oh mon Dieu, Dieu a élu, préparé d'avance, on vient de le dire, des personnes pour sa gloire. Et les autres, il y en a d'autres, eh bien, sont ceux qui ne sont pas les siens, et il les laisse suivre, il les pousse même à suivre leur père, qui est le diable. Matthieu, chapitre 13, verset 38, « Livrez, c'est les fils du diable, vous n'aimez pas cette idée, tant pis, c'est quand même dans votre Bible. » Vous dites, « Ah, il y en a une qui m'a écrit ce matin, mon âme, c'est la parole de Dieu. » Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est aussi la parole de Dieu. « Ah oui, mais moi je pense que... » T'as pas à penser que Dieu dit qu'il y a le bon grain, c'est les fils de Dieu, et que le diable est le père de certains, c'est les fils du diable. On ne change pas de père. Mon père s'appelait Charles Janton, le père de Stéphane ne sera jamais mon père. Vous comprenez ça? Je ne peux pas changer de père. Je suis issu de mon père. Et il y en a qui sont issus du Père Céleste, et il y en a qui en sont issus du diable. Il y a deux races sur cette terre. Ils ne veulent pas le croire. Ils disent qu'ils croient toute la parole de Dieu. Mais ils ne connaissent rien. Ils viennent me faire la morale. Non, mais c'est infernal. Bon. Les miracles mensongers servent à éloigner encore plus du royaume de Dieu ceux qui sont les fils du diable. Jésus nous a avertis qu'à la fin des temps, surgiront une bande de faux prophètes. On va lire dans Matthieu, chapitre 24, Matthieu, chapitre 24, verset 24, et je lis, « Il s'élèvera de faux messies, de faux Christ et de faux prophètes qui accompliront de grands miracles, des choses prodigieuses, afin de tromper, si possible, même ceux qui sont élus. Voici, je vous ai averti à l'avance. Si donc des gens vous disent, écoutez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou bien, si des gens vous disent, regardez, il se cache dans une pièce secrète, ne le croyez pas. Car comme l'éclair brille de l'est et remplit le ciel jusqu'au couchant à l'horizon, ainsi viendra le Fils de l'homme. Amen. » Alors, c'est le faux messie, ça veut dire ouin. Messie, ça veut dire ouin. Ce sont des faux ouins. C'est-à-dire qu'ils sont faux, mais ils sont ouins pour pouvoir faire des miracles. Ils sont ouins pour pouvoir faire des miracles mensongers. L'onction qu'ils ont leur permet de faire des miracles trompeurs qui a pour but celui de révéler qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ils font des miracles afin de tromper, si possible, mais ça n'est pas possible, même les élus. Mais ce n'est pas possible de tromper les élus. Pourquoi? Parce que les élus sont amoureux de la parole de Dieu, ils prennent toute la parole de Dieu, ils lisent la parole de Dieu, ils s'en imprègnent, et quand ils voient un miracle mensonger, eh bien ils le reconnaissent, et ils ne se laissent pas émouvoir. Pourquoi? Parce que les élus connaissent leur maître, connaissent Jésus, ils ont une relation avec lui et savent comment Jésus agit. En fait, Dieu se sert des magiciens et des faux rois et des faux prophètes pour endurcir le cœur de Pharaon, pour endurcir le cœur des fanfarons d'aujourd'hui, de ceux qui n'aiment pas la vérité, mais qui prennent plaisir à l'injustice, au mensonge et à toutes ces sortes de choses mauvaises. C'est Dieu en personne qui envoie à ces gens non élus, des esprits d'égarement, qui les pousse à croire au mensonge. C'est ce qu'on vient de lire. Alors on va dire, Dieu n'est pas juste. Mais qui es-tu, toi, ô homme, simple, grade, machin, de rien du tout, pour juger Dieu? Il y a un plan que tu ne connais pas si tu ne connais pas la Bible. Il faut que tu connaisses les Saintes Écritures pour que tu saches qu'il y a un plan. Et ce plan, eh ben, Dieu est en train de tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il le fait. Et il le fait à sa manière. Et sa manière, nous la connaissons parce que nous connaissons le plan. Nous l'avons lu, c'est écrit. C'est écrit, mais on ne peut pas être plus clair. Et ces gens-là, quand ils voient un Moïse ou un Jésus ou un vrai disciple de Jésus qui fait des miracles, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Oh! C'est un Manzer. Hein? Vous avez vu dans la Bible, c'est un Manzer. Qu'est-ce que c'est qu'un Manzer? Ça, c'est des chers pharisiens qui ont dit à l'aveugle de Siloé, qui était guéri, t'es un Manzer. Vous savez ce que ça signifie, Manzer? C'est un mot hébreu qui signifie bâtard. Ah! Bâtard! Il vient d'être guéri. Un aveugle qui retrouve la vue, Satan est incapable de faire une chose comme ça. Et ces gens religieux le savent très bien, mais ils traitent cet homme qui a reçu un miracle de Dieu de bâtard. Ça veut dire né d'une relation sexuelle entre deux personnes dont la loi de Moïse interdit l'union. C'est ça que ça veut dire, un manzer, un bâtard. Ah, ils sont beaux, ils sont tous pareils, hein. Encore aujourd'hui, quand j'ai prié pour mon premier malade, ça faisait 3 jours que j'étais converti, et j'ai prié pour un homme qui était paralytique et qui avait la maladie de Parkinson et qui était guéri. J'étais ni baptisé d'eau, ni baptisé dans le Saint-Esprit, pour la simple et bonne raison que j'avais pas eu le temps d'entendre les enseignements à ce sujet, je venais de me convertir. Mais j'avais un cœur pour les gens qui souffrent, et j'ai prié pour cet homme, et il était guéri. Savez-vous ce qu'ont dit les grands religieux? Même un de mes professeurs d'école biblique, pour pas le nommer, c'était Paillon. Il a dit, les miracles de Michel viennent du diable parce que le premier miracle qu'il a fait, il n'était même pas encore baptisé d'eau ni du Saint-Esprit. Pauvre type. Vous voyez les religieux comment ils sont? Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Les pharisiens d'il y a 2000 ans sont morts, mais les démons religieux qui étaient en eux sont dans les pasteurs et les curés et tous ces bons hommes et ces bonnes femmes religieuses d'aujourd'hui. C'est les mêmes démons qui ont simplement changé de corps. Manzer. Voilà, ben moi j'accepte. Venant de leur part, c'est plutôt flatteur que de me faire traiter de bâtard. C'est une insulte très grossière, mais ça me gêne pas beaucoup. L'ex-aveugle dit aux religieux, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais celui-là, Jésus, Dieu l'écoute. Vraiment, eux, priez pas pour les malades, parce que vous n'avez pas la foi, donc il risque pas de se produire des miracles. Hein. Depuis le commencement des temps, il dit, personne n'a jamais entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme né aveugle. Qu'est-ce que vous voulez que ces manzers de religieux disent? Il dit, oui, on sait que... j'arrête avec ça. Frères et sœurs, il y a des magiciens, comme les magiciens de Pharaon. Il y a des mages qui sont médiums et qui prédisent l'avenir, ou qui font tourner les tables, ou qui font des trucs, des mensonges, des miracles mensongers. Les prophètes de Dieu prédisent l'avenir, et le diable essaye d'imiter cela au travers de médiums, comme avec la pythonisse. Vous vous rappelez la pythonisse dans Actes chapitre 16, verset 16? C'est une femme qui était possédée par un esprit de serpent, un python, et elle disait la vérité. Elle disait, voilà, ces hommes sont des envoyés de Dieu, il n'y avait rien de plus vrai. Mais c'était un mauvais esprit qui disait ça. Un esprit religieux. Et elle faisait gagner beaucoup d'argent à ceux qui l'utilisaient. Hein? Et même si elle disait la vérité, c'était quand même un esprit mauvais qui animait cette bonne femme. Et Paul a chassé ce mauvais esprit. Qui est le plus fort? Qui est le tout puissant? C'est Jésus.
Amen.
Amen. Oui, l'Église catholique a validé en 160 ans 70 miracles à Lourdes. C'est pas beaucoup quand on pense les millions de personnes qui vont là-bas pour être guéries. Mais ces miracles ne viennent pas de Dieu, ce sont des miracles mensongers, ce sont des miracles trompeurs qui ont pour but de tromper les gens, qui ont pour but de pousser les gens à la superstition, à l'idolâtrie, à la vénération de mort. Ces miracles mensongers ont pour but de tromper le peuple en tenant le peuple éloigné de la connaissance de Jésus, du Jésus de la Bible. Et ces gens-là nous traitent de bâtards. Ils font peur au petit peuple. Regardez les parents de l'ex-aveugle. Ils n'ont pas osé être francs avec les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des religieux. Ils avaient peur d'être exclus. N'ayez pas peur d'être exclus par ces gens-là. Tenez leur tête. Peur d'être exclu de la synagogue, ça veut dire peur d'être exclu de la bonne société, de vos chers amis. Je vais vous dire une chose, moi. Si votre cher ami va se jeter du haut d'un gratte-ciel, vous allez le faire? Non. Et si votre cher ami continue dans une religion idolâtre, vous allez continuer parce que... Non, mais ça ne va pas. Maman mia. Rien n'a changé. Satan s'ingénie à faire des miracles mensongers un peu partout et son but est de tenir les gens éloignés de l'enseignement de Jésus quant à leur salut offert gratuitement par Dieu. Alors, on leur dit, il faut payer, il faut faire des messes pour faire sortir les gens du purgatoire, qui n'existe pas. Il faut payer les gens, des bougies et des machins et des trucs. Ils veulent tenir les gens éloignés. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que j'ai déjà fait payer pour prier pour quelqu'un? Jamais! Quelle honte! Le problème avec ces miracles mensongers, c'est qu'ils sont merveilleux. Certains semblent guéris, on pourrait dire, mais c'est formidable. Peu importe d'où vient le miracle. Non! Pas peu importe d'où vient le miracle. Des gens sont soulagés, c'est quand même bien, il ne faut pas être contre. Non ! Choisissez votre camp. Quand vous fouillez un petit peu, vous allez voir que ces gens souffrent de problèmes psychiques. Ils ont des comportements anormaux, d'aveugles spirituels. On va lire ce que Paul en dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2 Timothée chapitre 3 verset 15 je crois, ou 5 je ne sais plus. Oui c'est 5. Il garde les formes extérieures de la piété mais renie ce qui en fait la puissance. Vous voyez, ils ont une forme de piété. C'est vrai que, des fois, quand je les regarde, je dis, oh là, qu'est-ce qu'ils ont l'air plus sains que moi, n'est-ce pas, tous ces braves gens. Mais ils renient ce qui fait la puissance. C'est quoi qui fait la puissance de la piété? C'est l'obéissance volontaire à la volonté écrite de Dieu. Si vous obéissez volontairement à ce que Dieu a dit au travers des Écritures, alors là, vous êtes dans la vraie piété. Sinon, vous êtes dans une piété qui est fausse, parce qu'elle est contraire à la parole de Dieu. Vous avez une apparence de piété, mais vous reniez ce qui fait la puissance de la vraie piété, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là que le bât blesse. Alors, à première vue, les différences ne sont pas flagrantes, mais les deux actions s'opposent. Dans les conséquences, à long terme, regardez les magiciens de Pharaon, ils ont transformé leur bâton en serpent comme Moïse a transformé son bâton en serpent. Mais à la fin du compte, c'est le serpent de Moïse qui a bouffé les serpents des magiciens. Au bout d'un moment, on voit qui est le plus fort. Mais qui voulez-vous suivre? Qui voulez-vous suivre? Et le diable joue sur cette ambiguïté pour maintenir des centaines de millions de personnes sous son pouvoir. Mais ces gens-là sont ravis parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Pourquoi ils n'aiment pas la vérité? Parce que la vérité leur dit d'arrêter de pécher, d'arrêter de voler, d'arrêter de... Alors évidemment, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent, n'est-ce pas, des trucs un peu mystérieux, mais qui ne les engagent à rien. Ils peuvent faire comme ils veulent. J'ai un ami qui est très célèbre, son nom est connu partout en France, en Suisse, en Belgique, et tout, c'est un artiste. Il m'a invité un jour chez lui et il me dit... Il me montre une belle statue de Bouddha qu'il avait. Il me dit, moi, tu vois, mon Bouddha, moi, il m'emmerde pas. Je dis, ah bon ? Ben non, c'est pas comme ton Jésus. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il dit, le soir, je rentre complètement bourré, il ne me fait aucun reproche. Tandis que ton Jésus, il me fait des reproches. Ah ! Vous comprenez ? Ils n'aiment pas la vérité, ils ont une raison de ne pas aimer la vérité. Parce que s'ils aimaient la vérité, ils seraient obligés de s'y soumettre, mais ils ne veulent pas se soumettre à la vérité. Ils n'aiment pas la vérité, alors Dieu leur envoie l'esprit d'égarement, et puis ils croient n'importe quel flagada qui vient avec des pseudo-miracles mensongers, et puis ils sont tout contents avec ça. Et puis ils nous traitent de bâtards. Mais bon, moi ça ne m'inquiète pas vraiment, pas plus que Moïse n'était inquiet au sujet des Égyptiens. On va lire 2 Timothée 3, 14-16. 2 Timothée 3, 14-16, je me trompe. Non, c'est pas ça. Donc c'est peut-être 1 Timothée, je ne sais pas. Timothée 3. Non, je ne sais pas ça non plus. Je vais me tromper dans mes références. Excusez-moi, ça peut arriver. Bon, on va plus loin. Paul nous dit que les vrais disciples de Jésus continuent dans les choses qui sont selon les Écritures. Oui, c'est pas. C'est, voilà, je trouvais. C'est 3, 14. C'est bien ça. Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises. Donc Paul, il parle à Timothée en lui disant, toi, continue dans les choses que tu as apprises. Il les avait apprises de Paul, il ne les avait pas apprises de Jean-Paul 150. Tu les as apprises de moi, donc, et donc tu as été convaincu. Tu sais que, de qui tu les as apprises. Souviens-toi aussi que depuis l'enfance, tu as été enseigné dans les Saintes Écritures, qui peuvent te donner la sagesse qui conduit à la délivrance par la confiance dans le Messie Yeshua. Toute Écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener une vie, pour mener à bien une vie de bonnes œuvres. Paul nous dit donc que les vrais disciples de Jésus continuent dans les choses qu'ils ont apprises dans les Écritures, et il dit qu'il est nécessaire de s'appuyer sur une connaissance approfondie des Écritures, de la parole de Dieu. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, et vous qui m'écoutez sur Internet, le critère fondamental n'est pas tant de croire en Dieu et de dire « j'aime Jésus », ni même de parler de lui, mais c'est de connaître ce qu'il a dit et de s'y fier et de faire ce qu'il a dit. Ne vous bornez pas à écouter, mais faites, mettez en pratique les choses, car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile, comme il dit, pour enseigner, réfuter, redresser. Il y a des trucs qui sont tordus dans ta vie, il faut les redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Hein, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, souvenez-vous, Élie, par exemple, il a refusé nettement tout compromis avec l'idolâtrie. Israël s'accommodait fort bien du culte à l'Éternel et en même temps du culte à Baal. En même temps, ils faisaient tout ça en même temps. Que dit Élie en face des 450 prophètes de Baal? Il dit, Éternel, il prie, Éternel, qu'on reconnaisse aujourd'hui que c'est sur ta parole que je fais ces choses. 1 Roi 18, 36 ou 31, je ne sais plus. Je vous parlais de Lourdes tout à l'heure. Est-ce que vous savez que la soi-disante Vierge Marie qui est apparue là-bas, elle n'a jamais dit qu'il fallait aller là-bas pour être guérie? Elle n'a jamais dit ça. Lisez bien l'histoire. Elle a dit aux gamines de bouffer de l'herbe. C'est la populace idolâtre, sentimentalement déséquilibrée, qui a afflué dans ce lieu pour être guéri, et les religieux ont bien profité de la manne parce qu'ils ont... C'est les marchands du temple. Mais c'est honteux aller là-bas, c'est honteux. Si Jésus revenait, il irait là-bas avec un fouet, il les mettrait tous dehors. Non, je ne crois pas qu'il irait là-bas parce que il est rentré dans le temple à Jérusalem, mais là-bas, ce n'est pas le temple de Dieu, là-bas. Il a dit « Ma maison est une maison de prière et vous avez fait une caverne de voleurs. » Là-bas, ce n'est pas du tout une maison de prière, c'est juste une caverne de voleurs, c'est tout. Quand vous lisez la Bible, vous allez lire l'histoire des rois d'Israël. La plupart faisaient ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais, c'est toujours écrit ensuite, ne faisait pas disparaître les hauts lieux, c'est-à-dire ne faisait pas disparaître les lieux où allaient les gens pour adorer les idoles. Eh bien, c'est exactement comme aujourd'hui, quand on se dit chrétien et qu'on flirte avec des pratiques occultes. C'est exactement la même chose. On a les deux cultes, le culte à l'éternel et le culte occulte, à des idoles ou à des trucs de mage ou d'astrologie ou de tout ce qui est un relan religieux. On est exactement dans la même situation aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il n'aime pas la vérité. Deutéronome 18, 11. Deutéronome 18, 11. Il ne se trouvera pas au milieu de vous quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ni médium, ni devin, ni enchanteur, ni sorcier, quelqu'un qui jette des sorts, qui invoque des esprits, ou qui pratique la nécromancie. Car Adonai a en horreur quiconque pratique ces choses, et c'est à cause de ces abominations qu'Adonai, votre Dieu, chasse les habitants de ce pays devant vous. Vous serez dévoués à Adonai, votre Dieu, car ces nations que vous allez déposséder écoutent les devins, les médiums, mais à vous, Adonai, votre Dieu, ne le permet pas. Dieu ne vous le permet pas. Invoquez les morts, Dieu ne vous le permet pas. Marie est morte. Saint Trita est morte. Pio, le père Pio, est mort. Saint Joseph est mort. Quand vous priez ces gens-là, vous priez les morts, vous invoquez les morts. À vous, l'Éternel, votre Dieu, ne le permet pas. Vous voulez continuer à le faire? Eh bien, faites comme les Juifs qui avaient un Dieu à l'Éternel et qui allaient adorer dans les hauts lieux. Mais faites-le! Allez-y! Ça montre qui vous êtes. Au verset 21, il est dit qu'une personne qui donne une prophétie qui ne s'accomplit pas ne doit plus jamais prophétiser, c'est-à-dire ne doit plus prendre la parole au nom du Seigneur. Alors que celui qui a dit qu'il y aurait des milliers de personnes devant le portail du château, eh bien, il faut qu'il se taise maintenant, parce que c'est un faux prophète. Et qui avait dit aussi que les gens qui seraient au mariage de la petite sœur, je ne veux pas dire son nom, ils vont nous faire esprit, aller souffler sur eux, ils allaient se convertir. Ça fait combien maintenant? 3 ans? Il n'y en a aucun qui s'est converti. C'est un faux prophète, il faut qu'il le sache, il faut le lui dire, et il faut qu'il se taise, qu'il aille continuer à faire du sport. Et puis, on doit aussi regarder la sorte de vie que mènent ceux qui se prétendent envoyés de Dieu. Mes frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur. On va lire Exode, je vais dire, dis donc, aujourd'hui, hein. Mais oui, c'est la Bible, la Bible, la Bible. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux en dessous du rivage. Tu ne t'inclineras pas devant elle, tu ne les serviras pas, car moi, Adonai, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui châtie les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte de ce que je dis. Mais qui manifeste la grâce jusqu'à la millième génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes lois. Étonnez-vous maintenant que notre pays soit dans un tel état. Étonnez-vous, la fille de l'Église catholique, idolâtre jusqu'à l'os, et maintenant même plus chrétienne. Un pays, mon Dieu, priez pour la France, priez pour la France. Oh, il y a quelqu'un qui me dit, faut pas mélanger la politique avec la religion. Mais dis donc, les prophètes, ils faisaient quoi dans la Bible? Ils étaient sans arrêt chez les rois pour aller les engueuler. Et puis vous venez me dire à moi qui suis pasteur qu'il ne faut pas que je dirige mes brebis, qu'il ne faut pas que je leur dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous ne connaissez rien à la Bible. Alors avant de dire des bêtises, taisez-vous. Mon père, il disait, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Est-ce que vous avez tourné votre langue 7 fois dans votre bouche ou dans la bouche de quelqu'un d'autre? Ah, c'est quoi ce cirque? Vous venez me faire la morale, vous venez me dire ce que j'ai à faire? Mais c'est quoi ce cirque? Commencez déjà par mettre en pratique la parole de Dieu, et après on discutera. Mais quand on voit dans quel état est ce pays, mon Dieu. Alors, c'est pas le moment d'aller évangéliser quand il y a la révolte là-bas, à Paris, c'est pas le moment. Faut attendre que ça se calme un peu, puis après vous irez évangéliser les gens. Mais si vous y allez maintenant, vous allez vous faire ridiculiser. Parce qu'il y a un esprit là-dedans. Mais dans un sens, moi, je les comprends. Je les comprends, je suis d'accord avec eux. Qu'il y a de quoi revendiquer, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Comment le peuple est traité, honteux. Par contre, ce qui est scandaleux aussi, c'est que toute la racaille vient de casser et fiche tout en l'air, fiche tout par terre. Bande d'abrutis. Mais bon, ça fait 50 ans que je dis, mais personne ne m'écoute. Faites comme vous voulez. La prochaine fois, vous voterez pour qui? Enfin, vous, je suis sûr que vous avez voté pour une nouille, la même chose. Vous ne changerez pas, vous aimez bien être trompé. Vous n'aimez pas la vérité. Vous adorez être trompé. C'est un pays qui aime la tromperie. C'est un pays qui aime les magouilles. C'est un pays qui est... C'est un esprit dans ce pays de France qui est comme ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Dieu n'est pas dur, il est intransigeant sur ce thème. Alors une religion qui tolère ou qui encourage la vénération de statues ou d'images s'oppose à la volonté du seul vrai Dieu. Et le diable aveugle et trompe, et il est menteur dès le commencement, et les gens sont trompés. Et après ils sont tout étonnés. Choisissez votre camp. Vous devez exclure tout compromis. L'ambiguïté n'a pas sa place dans le cœur d'un enfant de Dieu. Si vous êtes sous l'emprise d'une religion mensongère, sortez du milieu d'elle. Amen, amen et amen. Père, je te prie pour que cette parole dure ce matin fasse un effet chez ceux qui ont véritablement dans leur cœur l'amour de la vérité et qu'ils se tournent vers toi, qu'ils te reconnaissent comme seul vrai Dieu et se mettent à obéir, à se nourrir de ta parole pour vivre la vraie vie et non pas du blablabla mensonger. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, j'étais un petit peu remonté ce matin, mais c'est des choses qui doivent être dites. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.